Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Je me dis, dans 50 ans, quel monde, et elle, quel monde elle va offrir à ses enfants?
Quand on apprend à comprendre notre environnement et la nature, derrière, on ne peut que essayer de protéger ce qu'on aime, de mettre en place des actions nous-mêmes, de se rassurer, de se déculpabiliser. Maintenant, je suis prêt à en parler avec mes enfants, mes élèves, etc.
Ils ignoraient que ce serait aussi dur que ça, je pense.
Ouais, ils doivent vivre un enfer.
Pourquoi tu m'as jamais aimé?
T'aimer? Mais qui a dit que je dois t'aimer?
C'est qu'il s'agit de déconstruire l'existant pour créer du nouveau. Mmh. Et le nouveau, c'est la parentalité.
Bienvenue dans mon cabinet. Je suis Mathilde Bouichou, psychologue clinicienne spécialisée en périnatalité. J'accompagne des femmes, des hommes, des futurs parents, des couples aussi, autour de toutes les questions qu'ils peuvent se poser sur leur parentalité, leur devenir parent. Ça peut aller lorsqu'ils s'interrogent sur leur désir d'enfant, aux difficultés qu'ils peuvent rencontrer pendant la grossesse, aux questions d'infertilité, au parcours de PMA, et puis aussi autour de toutes les questions éducatives qu'ils peuvent se poser avec leurs enfants. Bonjour Alexia.
Bonjour.
Qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui Alexia?
Alors, j'aimerais parler avec vous de mon éco-anxiété.
Alors, qu'est-ce que c'est l'éco-anxiété pour vous?
Alors, l'éco-anxiété pour moi, c'est une angoisse. C'est une angoisse qui me prend à chaque fois que j'ai affaire à des situations que je sais être polluantes ou dès que je vois aux infos qu'on nous parle de fonte de banquise, réchauffement de la planète. Voilà, c'est une situation qui... Enfin, c'est une angoisse qui me... Parfois me paralyse, même. Qui me fait très... Enfin, ça me fait très, très peur. Ça me tétanise, en fait. Et ça me culpabilise aussi. Je me culpabilise beaucoup en me disant que tout ce que je fais, je pollue, je suis en train de polluer. Et voilà.
Au-delà de la peur, de l'angoisse, comment ça se manifeste concrètement dans votre quotidien?
Par exemple, quand je prends ma voiture, je vais me culpabiliser en me disant « Mais là, t'es en train de polluer, c'est pas possible, faut que tu fasses quelque chose, faut pas... »
Donc ça va être surtout des pensées
oui.
Négatives à votre égard,
oui.
Où vous faites pas bien,
oui,
vous faites
exactement.
Pas ce qu'il faut...
Et du coup, je ne fais rien. Du coup, je ne fais rien parce que je fais un peu l'autruche. Je me dis, n'y pense pas, ça va aller, ça va. N'y pense pas, on passe à autre chose. Voilà, du coup, je reste dans cette espèce de cercle vicieux où je me dis, je fais quelque chose qui pollue, mais je ne veux pas y penser, donc je ne fais rien.
Mmh.
C'est assez vicieux.
À quel moment elle est apparue, cette éco-anxiété pour vous?
Elle a toujours été un petit peu latente, mais alors depuis que j'ai ma fille, c'est beaucoup plus appuyé, beaucoup plus soutenu. Par exemple, à chaque fois que je changeais sa couche, je me disais, allez hop, une couche de plus dans l'océan. Et pourtant, je me sens pas capable de faire autrement. Je pourrais essayer, mais en fait, je préfère ne pas y penser. Allez hop, voilà. Je préférais. J'ai essayé maintenant, j'essaye de mettre des choses en place. Mais...
Vous avez eu le sentiment qu'avec l'arrivée de votre fille, vous polluiez encore plus?
Encore plus, ouais. Encore plus, et puis même ça m'a fait ouvrir les yeux sur ce que je faisais déjà.
Et Alexia, le fait que cette éco-anxiété soit été renforcée avec l'arrivée de votre fille, donc vous dites que vous aviez le sentiment de polluer plus, est-ce qu'il y avait aussi l'inquiétude du monde que vous alliez lui offrir?
Bien sûr. C'est évidemment, c'est-à-dire que je me dis, dans 50 ans, quel monde, et elle, quel monde elle va offrir à ses enfants, si elle veut des enfants plus tard? Est-ce que ce sera possible? Je me dis, est-ce qu'elle va pouvoir, elle, grandir sereine, avoir une vie d'adulte sereine? Et est-ce qu'elle va pouvoir offrir une vie sereine à ses propres enfants? Voilà, c'est...
Elle a quel âge aujourd'hui, votre
fille? Elle a 4 ans.
Est-ce qu'elle peut manifester, alors, je ne sais pas si à 4 ans on a de l'éco-anxiété ou en tout cas voilà, des inquiétudes par rapport à l'écologie?
Elle n'en manifeste pas encore parce que pour l'instant, elle ne s'en rend peut-être pas compte. Par contre, je sais que moi, je lui transmets des choses. C'est-à-dire que je vais lui dire, par exemple, Louise éteint la lumière, c'est pour sauver la planète. Jette le papier dans la poubelle jaune, c'est pour sauver la planète. Voilà, il y a cette notion de je lui transmets que la planète est en danger. Et que du coup, si... Comme il faut la sauver, c'est qu'elle est en danger. Et si elle est en danger, c'est qu'il y a quelque chose qui est dangereux. Voilà. Mmh. C'est...
Elle réagit, elle a conscience de cette notion de danger quoi.
Elle réagit pas encore, mais par contre, elle répète. Elle dit, par exemple, elle aime bien quand on met des petites lumières tamisées, voilà, mais quand on a besoin d'allumer la lumière, elle va me dire « Mais non, mais maman, c'est pour sauver la planète !» Voilà, elle répète. C'est, voilà, maman, on va à l'école à pied parce que c'est pour sauver la planète.
Vous avez l'impression que ça prend beaucoup de place dans voilà, sa vie, son univers, ses préoccupations.
Ça prend de plus en plus de place. J'essaye d'avoir un discours un peu moins alarmiste, parce que je me trouve alarmiste, mais ça prend de plus en plus, enfin, ça prend de la place. Après, je me dis, est-ce que c'est si négatif que ça, parce qu'au final, ça lui apprend les bons gestes, des choses qui vont être plus tard, qu'elle va pouvoir mettre en place, elle, plus tard. Une conscience que moi, j'ai eue très tardivement, finalement, une conscience de cette notion d'écologie qu'il faut préserver, enfin, qu'il faut préserver la planète, et voilà. Donc, en soi, je me dis, c'est pas mal, c'est bien. Mais je me dis, je pense que je lui transmets pas des bons sentiments là-dessus. C'est peut-être que si elle le fait parce qu'elle a peur qu'il se passe quelque chose, c'est pas très positif. Ce serait mieux si elle le faisait parce que pour elle c'était normal et voilà, c'est de façon plus sereine en fait.
Est-ce que vous avez l'impression, Alexia, que du fait de votre éco-anxiété, le fait de transmettre voilà, cette inquiétude et un discours un peu dramatique, que du coup, votre fille pourrait elle-même développer l'éco-anxiété?
C'est un risque. Mmh. C'est un risque. En plus, ma fille, c'est ma fille. C'est-à-dire que c'est une angoissée. Voilà. C'est un risque. Pour l'instant, elle est petite, mais c'est un risque.
Et est-ce que face à ce risque, vous avez essayé de mettre des choses en place?
Alors,
et
à
puis
la
pour
maison
vous aussi.
Oui, à la
pour
maison.
Vous
alors,
vous.
En effet, je mets des choses en place. Déjà, je me déculpabilise un petit peu, mais je vais mettre des petites choses en place, comme par exemple, je vais éviter d'acheter des gâteaux en sachet individuel, en me disant, si moi je fais mes propres gâteaux, déjà. Je polluerai un peu moins. C'est moins polluant, même pour elle, c'est mieux, c'est meilleur pour sa santé. Enfin, voilà. Et en plus, ça pollue moins. Donc, on essaye ensemble. En plus, je le fais avec elle. Donc, quand on fait les gâteaux, on le fait ensemble. Donc, c'est très bien. J'essaye aussi de lui apprendre par un biais plus ludique, de faire des jeux, Voilà,
Quel type de jeu, par exemple, vous faites avec
elle? C'est les jeux que Mélanie, a mis en place, qui vont être des petits escape games, des petites histoires aussi. On écoute des histoires et puis après, on joue par rapport à ça. Des jeux sur l'écologie, des jeux de société.
Qu'est-ce qui se passe dans ces jeux?
Par exemple, on va essayer de savoir... Pourquoi il faut préserver l'eau? Pourquoi l'eau est une denrée importante, par exemple? Et donc, on va apprendre dans ces jeux comment faire pour économiser l'eau. Enfin, ce genre de choses et qui vont être très, très ludiques et qui, pour elle, du coup, après, elle va pouvoir les remettre en place dans son quotidien, en fait, dans le quotidien. Voilà, par exemple,
on n'achète plus de bouteilles d'eau, elle a une gourde, alors elle va plus dire, elle va dire, maman, tu peux remplir ma gourde, s'il te plaît. Voilà, elle va plus me dire, bah, elle est où la bouteille d'eau? Enfin, voilà. C'est ce genre de petites choses qui vont être très présentes au quotidien, finalement, qui vont être amenées pour elle via le jeu.
Et pour vous, Alexia, alors, voilà, vous disiez que vous essayez de vous déculpabiliser beaucoup. En faisant, voilà, en étant dans l'action, en faisant certaines choses, comme les gâteaux pour le goûter. Est-ce qu'il y a d'autres choses, voilà, pour vous, que vous faites, voilà, pour vous apaiser, et retrouver un peu plus de sérénité?
Alors, j'essaye, alors je suis professeure des écoles, j'essaye aussi de transmettre à mes élèves les notions d'écologie, les notions de préserver la planète, voilà. J'essaye de ne pas leur transmettre mon éco-anxiété, parce que de toute façon, eux, ils sont très angoissés. Voilà, ça c'est quelque
chose. Ils ont quel âge vos...
Ils ont entre 9 et 10 ans.
D'accord.
Voilà, j'ai des CM1, CM2, ils sont, eux, tout seuls, déjà très angoissés. Donc, moi, je me dis, de toute façon, les citoyens de demain, ce sont eux. Il faut leur apprendre et leur donner une conscience écologique. Déjà, c'est nécessaire. Et donc, j'essaye d'en discuter avec eux, de les rassurer. Et quelque part, en les rassurant, ça me rassure un petit peu.
Depuis combien de temps vous avez vu apparaître cette éco-anxiété chez vos élèves? Est-ce que vous observez une évolution les années passant ou pas du tout?
Alors, je vois apparaître une évolution, mais en fait, pour moi, j'ai pris conscience de cette éco-anxiété quand j'ai pris conscience de mon éco-anxiété. C'est-à-dire que, comme c'est quelque chose qui a commencé à me parler, l'écologie, j'en ai parlé à mes élèves. Je me suis dit, ce serait bien qu'on en discute. Et c'est à partir de là, en fait, que je me suis rendu compte qu'il y avait une angoisse. Parce que avant, j'en parlais. Je ne suis pas sûre que je rentrais vraiment dans le détail avec eux. Ou en tout cas, je n'y allais pas profondément, en fait. Moins profondément, en tout cas. Et puis, dès l'instant où moi, c'est devenu quelque chose qui m'a parlé, eh bien, en fait, je me suis intéressée à ce que eux en pensaient, vraiment. Et là, je me suis dit, ah oui, il y a de l'éco-anxiété chez les enfants, à leur âge.
Du coup, comme vous avez cette double casquette de maman et de professeur des écoles, pour vous, quel est le rôle justement de l'école sur cette question? Cela vous dites, c'est parce que ça vous a intéressé, questionné, que vous avez abordé ça avec vos élèves. Est-ce que c'est quelque chose que font tous les professeurs? Est-ce que c'est dans les programmes, par exemple?
Bien sûr, c'est dans les programmes. L'écologie est dans les programmes. Après, c'est vrai qu'on a beaucoup de choses à traiter en une année, et voilà. Alors, il y a des labels qui ont été créés par l'Éducation nationale pour les écoles qui mettent en place des choses, des actions écologiques, voilà.
Donc, par exemple, des écoles qui vont faire attention au matériel, aux fournitures.
Exactement, qui vont créer, par exemple, un potager, ne serait-ce que ça. Bah, par exemple, nous, dans notre école, on a une poubelle déchets classique. On va mettre les mouchoirs, les stylos, enfin, ce qui ne se recycle pas vraiment, et les papiers. Donc, on essaye au maximum de réduire la quantité de papier. On essaye au maximum qu'on soit une école moins polluante.
Et cet accompagnement, il se fait dès la maternelle?
Oui, il peut, bien sûr. Ah, bien sûr, bien sûr. Oui, oui.
Merci beaucoup, Alexia. Je vous propose qu'on rejoigne notre experte dans le salon d'à côté, Mélanie Courrière. Bonjour Mélanie Courrière.
Bonjour Alexia, bonjour Mathilde.
Bonjour Mélanie.
Vous êtes la créatrice du blog « Faire découvrir l'écologie aux enfants » ainsi que des abonnements et des kits pédagogiques thématiques « Les défis écolos ». Vous êtes engagée dans la sensibilisation aux problématiques environnementales à la fois au sein des familles, des écoles et des entreprises. Vous avez eu une prise de conscience écologique à la naissance de votre fille aînée, comme Alexia vient nous en témoigner, et vous quittez votre emploi salarié pour vous former et monter votre propre projet. C'est ainsi que vous avez créé des outils et des supports qui vous ont manqué pour aborder ces grandes thématiques environnementales avec vos enfants, sous le signe de la bienveillance et de l'amusement. Dans mon cabinet, les personnes que j'accompagne me font de plus en plus part de leur inquiétude concernant l'écologie, leur éco-anxiété. Certains freinent leur désir d'enfant par peur du monde de demain. Certains s'inquiètent pour leurs enfants et tentent tant bien que mal de les sensibiliser à ce sujet, ce qui n'est parfois pas sans angoisse. Qu'est-ce que l'éco-anxiété ? Comment se manifeste-t-elle tant chez les adultes que chez les enfants ? Quelles sont ses conséquences ? Et que peut-on faire en tant que parent pour s'apaiser soi et apaiser ses enfants ? Autant de questions que nous allons aborder ensemble aujourd'hui. Tout d'abord, Mélanie, qu'est-ce que c'est que l'éco-anxiété ?
Alors, l'éco-anxiété, ça va être un mélange d'émotions, généralement plutôt négatif, un espèce de stress qui va être lié à cette prise de conscience des bouleversements environnementaux actuels et à venir. Là, on se projette dans le futur et on se demande ce que va devenir la planète, ce que nous, on va devenir.
Donc là, dans la définition que vous nous donnez, Mélanie, donc il y a cet effet de projection.
Oui, tout à fait. En fait, on peut différencier l'éco-anxiété de la solastalgie. Dans la solastalgie, on va plutôt être ancré dans le présent, voire dans le passé, quelque chose de nostalgique par rapport à comment était le monde avant. Et l'éco-anxiété, pour le coup, on va se projeter dans un environnement futur, un horizon temporel plus large. Et justement, ça va être ce stress qui va être lié à cette projection.
Dans ce que nous disait Mélanie de son éco-anxiété, il y avait aussi cette notion un peu d'ambivalence, finalement, le fait à la fois d'être, j'allais dire, victime et coupable de ce qui se passe.
Oui, tout à fait. On va se rendre compte que justement, c'est ça qui est difficile dans l'éco-anxiété, on va se rendre compte finalement qu'on est victime de quelque chose. Qu'est-ce que je vais devenir en fait dans ce monde ? Qu'est-ce qui va m'apporter ? Qu'est-ce qui va apporter à mes enfants ? Comme le disait Alexia justement, elle s'inquiète pour l'avenir de sa fille, mais aussi des enfants de sa fille plus tard. On se met dans une position de victime. Mais en fait, on se rend compte aussi, et c'est ça qui est dur, c'est qu'on est aussi coupable. Parce que tout ce qui arrive, c'est lié aux êtres humains. Donc, en quelque sorte, on est aussi coupable à notre échelle de ce qu'on vit et de ce qu'on ressent. Après, une clé aussi pour surmonter ça, c'est de se dire, et se déculpabiliser, comme l'a dit Alexia tout à l'heure, c'est de se dire, d'accord, je suis victime et coupable, mais en fait, les êtres humains sont aussi à la fois le problème et la solution. C'est nous qui avons causé tout ça, mais on a aussi les clés en main pour surmonter, pour faire évoluer les choses, et justement pour se construire un monde qui serait plus durable.
Est-ce qu'il y a différents degrés ? Alexia nous disait que par moments, ça la paralyse complètement. Alors, j'imagine que peut-être des personnes ont de l'éco-anxiété, mais ne sont pas pour autant paralysées. Donc, est-ce qu'il y a différents stades ou degrés dans l'éco-anxiété ?
Alors, on parle de deux types d'éco-anxiété. L'éco-anxiété adaptative et l'éco-anxiété pathologique. Alors, l'éco-anxiété, il faut savoir que ce n'est pas une maladie. Ça, c'est reconnu. Il y a des études qui ont été faites et c'est reconnu par les médecins. Ce n'est pas une maladie, c'est lié aux émotions. Alors l'éco-anxiété adaptative, ça va être une prise de conscience, le fait de la surmonter et ensuite de passer à l'action. Là, on va s'adapter en fait et ça va faire partie de notre vie, de notre histoire. Pour l'éco-anxiété pathologique, là, on va beaucoup plus être dans la souffrance, dans des pensées beaucoup plus sombres, plus noires. Ça va pas trop, on va pas trop le retrouver chez l'enfant, rarement. Beaucoup plus chez l'adolescent, par contre. Et là, vraiment, on va détecter une souffrance, des remises en question, des pensées très négatives et un comportement qui peut aussi être assez négatif en se tournant vers justement l'inaction, le fait de se figer, de ne plus pouvoir rien faire, quoi, d'être paralysé.
À partir de quel âge elle peut se manifester, l'éco-anxiété ?
Des tout petits, en fait, à partir du moment où on en prend conscience, alors pas forcément conscience, mais en tout cas qu'on y est exposé, qu'on nous en parle, là on peut avoir une espèce de stress et d'angoisse qui se met en place. Alors pas de la même forme. Les enfants plus petits vont avoir du mal à poser des mots dessus. Ils vont avoir une espèce de sentiment qu'ils ne vont pas savoir expliquer. Et les enfants plus grands, eux, vont réussir à en parler. Alors après, comment ça se manifeste ? Il va y avoir des espèces de symptômes. Ce n'est pas une maladie, mais il va y avoir des manifestations physiques, par exemple avec des maux de ventre, des angoisses, des cauchemars, des peurs, le symptôme de peur. Et ensuite, comme tout à l'heure le disait Alexia, tout à l'heure, elle a cité les mots tétanie, paralysie. Et ça fait partie des symptômes aussi de l'éco-anxiété, de se dire, ben en fait, un espèce de rejet en fait de la nature. Je veux pas en entendre parler. Ça, Alexia l'a dit tout à l'heure. Je veux pas en entendre parler. Je continue ma petite vie tranquille. On n'en parle plus. Et ça, ça fait partie des symptômes chez les enfants. Ils vont l'intérioriser, ils vont en avoir conscience. Mais derrière, ils vont pas vouloir qu'on leur parle. Ok, c'est bon, maman, tu m'en as parlé. Ou à l'école, maîtresse, tu m'en as parlé. J'ai compris, mais je ne veux plus qu'on m'en parle. Autre chose dans cette même idée, les enfants, par exemple, quand on leur parle que la nature, la planète est en danger. Et bien justement, ils vont avoir peur de la nature. Ils vont plus vouloir s'en approcher, ils vont plus vouloir aller en forêt. À la fois parce qu'ils vont avoir peur d'être un danger pour elle, de lui faire du mal, mais aussi parce que derrière, ils vont faire le lien inverse, c'est-à-dire qu'ils vont se dire, si moi je suis dangereux pour elle, elle est peut-être dangereuse pour moi aussi. Et donc, il va y avoir cette peur de la nature, de l'environnement, qui peut aussi se développer chez les enfants, cette espèce de rejet.
Ces symptômes, ces manifestations, est-ce qu'on peut dire que finalement, ce sont les mêmes chez les enfants et les adultes ?
Oui, globalement, oui. Chez les adultes, c'est pareil. Il va y avoir des remises en question, il peut y avoir des maux de ventre, enfin des symptômes physiques. Après, chez l'adulte, on tombe plus facilement dans tout ce qui est pathologique, parce qu'en fait, l'adulte et l'adolescent aussi, j'inclus l'adolescent là-dedans, parce que l'adolescent va avoir une vision aussi plus systémique du monde, et du coup, des angoisses plus prononcées aussi.
Oui, le fait d'avoir davantage conscience, finalement, des implications, des conséquences par ricochet, une vision, comme vous dites, plus globale du système, voilà, cet élargissement de la conscience en grandissant et qui est pleinement là à l'adolescence, évidemment, va alimenter et augmenter le niveau d'angoisse.
Tout à fait, ouais. Un adolescent et un adulte, contrairement à un enfant, va avoir une vision multifacette de cette... de ces problématiques environnementales, l'aspect politique, l'aspect sociétal, l'aspect santé, alors que l'enfant, finalement, va généralement aussi focaliser sur ce qui l'intéresse ou ce dont on lui a parlé. Il va visualiser peut-être l'ours blanc sur sa banquise qu'ils font, donc il va se préoccuper des animaux. Il va visualiser cet océan de plastique, peut-être, donc plus se concentrer sur les océans, les déchets qu'on produit, etc. L'enfant va avoir une vision moins élargie, en tout cas, qu'un adolescent et qu'un adulte.
Oui, en tout cas, cette question des animaux est une préoccupation très importante pour les enfants. Ils ont souvent quand même un intérêt important pour eux.
C'est sûr. Oui, oui, les animaux, ça parle beaucoup aux enfants. C'est aussi pour ça que dans les livres d'histoire, on met beaucoup en scène des animaux. C'est quelque chose qui leur parle beaucoup et à la fois qui lui permettent de prendre de la distance parce qu'ils ne s'identifient pas toujours à ces personnages-là. Après, moi, je suis persuadée aussi que il y a quelques années ou dizaines d'années, quand on communiquait sur les problématiques environnementales, on montrait ce fameux ours blanc sur sa banquise. Et qu'en fait, les gens, il y a eu aussi un espèce de déni autour de ça, c'est que les gens se disaient, en fait, cet ours blanc sur sa banquise, c'est loin, c'est pas nous. Qu'est-ce que je peux faire ? Voilà, ça nous touche pas. Qu'est-ce que je peux faire, moi ? En fait, pas grand-chose. Parce que nous, moi, je sais que j'avais cette image-là petite, de me dire le réchauffement climatique, c'est les ours sur leur banquise qui font quoi. Donc finalement, on se sent moins concernés. Et aujourd'hui, on a une prise de conscience générale qui fait qu'on se rend compte de tous les impacts et plus seulement de cette ours sur sa banquise. Et du coup, cette éco-anxiété qui monte. Et qui fait de plus en plus partie de l'actualité aussi.
Oui, on en entend parler partout. Du coup, Mélanie, selon vous, est-ce que cette prise de conscience, elle est nécessaire, importante, parce qu'on voit voilà, qu'elle peut être douloureuse, mais est-ce que voilà, c'est important quand même d'inviter, d'accompagner notamment les enfants à avoir cette prise de conscience ?
Ah oui, c'est très important, parce qu'en fait, l'enfant, naturellement, il va être égocentré. Et donc déjà, il faut qu'il prenne conscience qu'il n'est pas seul, il n'est pas le seul être vivant, qu'il y a d'autres êtres vivants, qu'il fait partie d'un tout et que ce tout est interdépendant. Donc pour moi, la prise de conscience, c'est quand même l'élément clé pour derrière être conscient, réfléchir, comprendre et derrière agir. Pour moi, il y a plusieurs phases dans cette prise de conscience, en tout cas chez l'enfant, enfin chez l'adulte aussi, mais beaucoup chez l'enfant.
Et du coup, voilà, dans les étapes de cette prise de conscience, si je comprends bien ce que vous dites, Mélanie, c'est justement ce qui va permettre ensuite de pouvoir passer à l'action.
Oui, tout à fait. Tout à fait, parce qu'à partir du moment où on a conscience qu'on fait partie d'un tout et que ce tout peut être en danger, on va ensuite avoir besoin de comprendre finalement pourquoi, comment, et moi comment je peux être acteur là-dedans. Et ensuite, pour surmonter ça, ça va nous permettre aussi de surmonter l'éco-anxiété, passer à l'action et devenir acteur et moteur dans un monde finalement dans lequel on a besoin d'évoluer et aussi être conscient des décisions qu'on va prendre.
Du coup, pour les enfants, alors peut-être ça va être différent en fonction de leur âge, mais quelles peuvent être justement ces actions, voilà, après cette prise de conscience, les actions qu'on peut les inviter à faire pour avoir un peu de prise finalement sur ce qu'ils vivent et ce qu'ils ressentent?
Déjà, nous, ce qu'on va les inviter à faire, ça va être de comprendre. Tout à l'heure, Alexia prenait l'exemple de la poubelle jaune. On va mettre les déchets dans la poubelle des ordures ménagères et les déchets recyclables dans la poubelle jaune. Alors déjà, c'est super, parce que c'est un geste qu'on leur apprend. Et après, pour moi, ce qui est capital de faire, c'est de leur apprendre pourquoi. Pourquoi, comment? Parce que quand ils vont comprendre derrière, déjà, ils vont être moins angoissés. Parce qu'ils vont se dire, OK, ça fonctionne comme ça, je comprends. Et eux, derrière, ils vont trouver leur propre solution aussi.
Mmh. Donc, donner du sens est essentiel.
Tout à fait, donner du sens. Donc, par exemple, reprenons l'histoire de la poubelle et du recyclage. Leur dire, moi, je sais, hein, j'en ai pris conscience il n'y a pas longtemps avec mes propres enfants. On a toujours fait comme Alexia, de leur dire, il faut mettre dans telle poubelle. Et en fait, j'ai pris conscience qu'on ne leur a jamais expliqué pourquoi. C'est tellement naturel pour nous de faire ce geste qu'on ne leur a jamais expliqué pourquoi. Et juste de leur dire, bah, écoute, les ordures ménagères, malheureusement, quand on ne les met pas au compost, bah, tout ce qui part dans les camions poubelles, ça va être incinéré ou enfoui. Tout ce qu'on va mettre dans le recyclage, ça va aller dans des usines spéciales qui vont récupérer ces matériaux, les transformer et en faire de nouveaux objets, de nouveaux emballages. Donc en fait, c'est des choses qui vont avoir une deuxième vie. Et là, déjà, l'enfant, il va comprendre, il va intérioriser le geste et quand il va le faire en pleine conscience, en fait, de ce qu'il fait. Et derrière, ça va être tout un cheminement, il va en prendre conscience par lui-même et nous par ce qu'on va lui inculquer. Mais quand on va lui parler de déchets, il va se dire d'accord, mais moi du coup, tout ce que je mets dans ma poubelle d'ordures ménagères, bah, en fait, finalement c'est brûlé ou enterré, donc c'est pas top. Et de lui-même, il va vouloir essayer de produire moins aussi. Donc c'est tout un cheminement, à partir du moment où on explique, l'enfant va mettre en place des choses derrière.
Donc là, c'est un cercle vraiment vertueux.
Tout à fait.
Est-ce que vous avez d'autres exemples, Mélanie, voilà, de petits gestes qu'on peut mettre dans notre quotidien, voilà, et auxquels on peut faire participer les enfants?
Alors, bah, déjà le recyclage, et puis ensuite, par exemple, juste quand on habite en immeuble ou quand on se retrouve dans un immeuble et qu'on a des ascenseurs, peut-être leur expliquer, bah, on va prendre les escaliers, parce qu'il y a 16 étages, mais on va prendre les escaliers plutôt que l'ascenseur. Parce que bah, déjà, ce sera de l'énergie en moins et de la pollution en moins. On peut aller dans une démarche très justement active. On peut proposer aux enfants d'aller ramasser des déchets sur la plage ou en forêt. Ça leur parle beaucoup. Et là, ils sont vraiment dans l'action. Donc en général, ils sont très fiers d'eux. Ça, c'est une action qui parle beaucoup aux enfants. On peut essayer, comme Alexia le disait tout à l'heure, d'aller à l'école à pied ou en vélo ou en trottinette plutôt qu'en voiture. De faire du covoiturage quand on est adulte. On peut acheter local, français. On peut aussi, comme on le disait aussi, de limiter les bouteilles d'eau, acheter une gourde. Et là, rien que ce petit geste pour un enfant, quand on lui explique aussi, de se dire, bah, écoute, si toi, tu utilises une bouteille d'eau par jour, sur une année, tu vas en utiliser 365. Imagine si on achète une gourde d'eau, tous les déchets qui sont évités grâce à cette gourde d'eau qui va te servir pendant des années et des années, voire toute une vie. Et c'est pareil, ça, ce geste-là, et quand on l'explique aux enfants, c'est incroyable. Parce que souvent, l'enfant, il va se dire, finalement, à mon échelle, oui, je peux faire des petits gestes, des petites choses, mais en fait, on n'est rien, on n'est pas grand-chose. Et en fait, rien que ce petit geste de dire, juste toi, 365 bouteilles. Et si un jour, tu offres une bouteille à un copain, une copine, un cousin, lui aussi va éviter 365 bouteilles. Et ça, pour trois personnes, c'est 1000 bouteilles qui sont économisées. Et ça, voilà. Et ça va être quelque chose que l'enfant va comprendre et va visualiser.
Oui, donc là, vous nous dites, Mélanie, le fait de mettre aussi ces petits gestes qui semblent rien du tout dans un contexte plus large qui, là, deviennent du coup énormes. Mm. Voilà, qui se démultiplient et qui deviennent énormes.
C'est ça, tout à fait. Jour après jour, finalement, c'est pas un petit geste aujourd'hui, c'est plein de petits gestes qui, mis bout à bout, finalement, représentent beaucoup de choses.
Là, ce que vous évoquez, ça m'évoque un peu aussi, c'est... Voilà, ces mythes ou ces fausses croyances justement qu'on peut entendre, c'est trop tard, c'est pas ma bouteille d'eau qui va changer ou c'est pas parce que moi je baisse le chauffage d'un degré que ça va changer la planète. Ou en France, on n'est pas le pays qui pollue le plus, alors pourquoi nous on doit faire des efforts alors qu'il y a des pays qui polluent beaucoup plus? Voilà, on entend un peu toutes ces phrases. Comment on peut cheminer par rapport à ces croyances?
Alors déjà, c'est vrai qu'il y a pas mal de mythes à déconstruire autour de tout ça, hein, plein de choses qu'on entend justement et qui nous figent, qui contribuent à nous figer. Alors le premier mythe, ça va être c'est trop tard. Ben non, c'est pas trop tard. Au contraire, il y a quelques dizaines d'années, il y a deux chercheurs qui ont identifié le trou dans la couche d'ozone et qui ont fait des recherches. Alors déjà, leurs recherches ont mis plusieurs années, une dizaine d'années, à être reconnues. Et à partir de ça, à partir du moment où on a reconnu leurs travaux, on a mis en place des choses pour interdire des gaz polluants. Alors c'était les CFC à l'époque. Et en fait, on s'est rendu compte que quelques dizaines d'années après, ce trou dans la couche d'ozone a commencé à se résorber. Il se résorbe toujours. Et en fait, c'est ça, c'est que si c'était parti du constat, c'est trop tard, le trou, il existe déjà. Ils n'auraient rien fait, en fait, du coup. Et comme quoi, en fait, tout est possible et tout est faisable. Il faut juste s'y mettre et s'y mettre en général collectivement, mais c'est pas trop tard. Après, l'autre mythe dont on parlait tout à l'heure, c'est « je peux rien faire à mon échelle ». Si, on parlait tout à l'heure de la bouteille d'eau. Si, on peut faire des choses à notre échelle. Et l'exemple de la bouteille d'eau, on n'en est qu'un parmi tant d'autres. Il y a plein de choses à faire, énormément de choses à faire. Et des choses qu'on fait déjà et dont on ne se rend plus compte. Le recyclage, ça fait partie tellement de nos quotidiens, mais c'est très important. Plein de petites choses mises bout à bout comme ça.
Mais là, je reprends l'exemple que vous donniez, Alexia, sur le fait de faire vos gâteaux vous-même, les gâteaux du goûter, d'éviter d'acheter des gâteaux dans des sachets individuels. Mais faire toutes ces petites choses, alors c'est vrai qu'une fois, faire de la pâtisserie avec ses enfants, c'est très sympa. Mais moi, je pense à tous les parents qui me disent, mais c'est une charge supplémentaire. Ça veut dire que c'est, voilà, à nouveau, il faut que je mobilise des choses. C'est ce qui peut amener de la pression, parce qu'on n'a pas toujours le temps de faire tous les goûters de la semaine. Alors, quand en plus il y a 2, 3, 4 enfants, voilà, ça peut vite quand même, l'atelier pâtisserie devient une véritable usine. Donc voilà, il y a aussi cette question de la charge supplémentaire que ça amène, qui n'est pas toujours simple à gérer.
C'est sûr. Alors l'exemple des gâteaux est en effet le parfait contre-exemple. C'est-à-dire qu'en effet, ça va nous prendre plus de temps. Après, il faut peut-être le visualiser autrement. Ça va être du temps de qualité qu'on peut passer avec nos enfants. Pour confectionner ces gâteaux, les enfants dès tout petits, ils peuvent faire leurs propres gâteaux, des recettes très simples. Donc ça, il faut le voir comme un temps de qualité, pas au détriment d'autres choses, mais du temps avec nos enfants et puis pour leur santé aussi. Finalement, d'avoir la main sur la quantité de sucre qu'on va mettre dedans, sur les ingrédients qu'on va mettre dedans, plutôt que d'acheter des choses bourrées de conservateurs. Ou d'autres substances pas toujours très bonnes.
En tout cas, là, vous dites qu'il faut vraiment changer de regard sur ces actions. De ne plus les voir comme des contraintes, mais de pouvoir en voir le positif au-delà du bénéfice, là, sur l'exemple des gâteaux, que l'enfant va manger quelque chose de meilleure qualité, mais au-delà de ça, voilà, le moment de qualité, ce qu'on va partager, et que finalement, sur toutes ces choses-là du quotidien, on peut aussi voilà, changer notre regard sur ce qu'on fait pour modifier finalement notre vécu et plus le vivre comme une contrainte.
Ouais, tout à fait, c'est ça. Voir l'aspect positif, le transformer en quelque chose de positif en tout cas. Puis après, on parlait de ça en se disant, mais c'est une contrainte, une perte de temps, etc. Mais il y a des choses qui vont nous en faire gagner aussi, parce que mine de rien, de ne pas se remonter son pack d'eau toutes les semaines, tous les jours, d'avoir juste à remplir sa bouteille d'eau, sa gourde d'eau, pardon, au robinet, on va quand même gagner un petit peu de temps, on va économiser un petit peu d'argent aussi. Donc, tous les gestes qu'on peut faire ne vont pas forcément être des contraintes non plus.
Et puis, si je peux me permettre, je pense aussi que la déculpabilisation qu'on ressent quand on met en place ces petites choses-là, bah, ça fait quand même du bien. Enfin, je veux dire, c'est on gagne quand même. Enfin, moi, je gagne en faisant ça en sérénité, mine de rien, et donc en qualité de vie. Même si, oui, ça me demande du temps, oui, faire deux tournées de gâteaux parce que mon moule, il a que six places et que ça va pas suffire pour deux jours, et bah c'est pas grave, ça, j'en fais deux. Mais à côté de ça, je me couche le soir et je me dis, ah, chouette, je me sens un petit peu mieux. Et c'est bien.
Alors là, du coup, Alexia, vous évoquez voilà, ce que vous, là, vous faites et qui, du coup, amène de l'apaisement. Quand un enfant présente de l'éco-anxiété, comment on peut le rassurer ?
Bah déjà, on va lui dire que l'éco-anxiété, après tout, c'est une émotion normale, qu'il a pris conscience de quelque chose et que ça génère quelque chose en lui. Donc déjà, c'est bon signe. Il réagit. Il se fait ses points de vue, ses idées, etc. On va le rassurer et on va l'apaiser comme ça, en lui disant « c'est normal ». Mais enfin, il y est pour rien. C'est le monde dans lequel il vit. Et derrière, il va quand même être acteur de ce que lui veut construire. Donc déjà, on va le rassurer comme ça. Et après, souvent, le fait de détenir une information complète aussi va lui permettre de se sentir maître de ce monde dans lequel il vit, il grandit et de ce qu'il va construire derrière. Pour moi, le fait de lui apprendre à comprendre, de lui expliquer les choses et de ne pas se dire justement, quand il va se dire « Ah non, non, mais moi j'ai trop peur, je veux éviter cette question, je ne veux pas en parler. » Finalement, pour moi, en tout cas, ce n'est pas la bonne solution parce qu'en fait, on va lui donner cette peur. Enfin, en tout cas, cette peur, il va l'avoir en lui et on va la nier avec lui. Plutôt que de la prendre en charge et de se dire, même si elle reste un peu présente, c'est normal, c'est une émotion, de lui expliquer et il va comprendre, il va se dire « Ok, d'accord, donc j'ai ça, on vit dans ce monde-là, mais finalement, on peut faire des choses et je sais, je comprends pourquoi et comment. »
Oui, de mettre sous le tapis finalement. Alors Alexia, vous nous disiez, voilà, il y a eu cette étape finalement que oui, vous avez traversée, où vous vouliez mettre sur le tapis, mais que peut-être c'est plus confortable finalement de s'y confronter.
Et puis ça arrive parfois encore, hein. Je me dis, bon, allez, c'est pas... Là, t'emmènes la petite au centre alors que c'est 5 minutes à pied, tu l'emmènes en voiture, qu'est-ce que ça va changer ? Bah, en fait, c'est là qu'il faut se dire, bah, si, ça change, en fait. Pas pour une fois. Bon.
Exceptionnellement,
pour la 10e fois, bon.
Alexia, vous nous parliez des mots très forts, voilà, la planète est en danger. Voilà. Est-ce que j'imagine aussi que ces discours un peu alarmistes, dramatiques, voilà, vont alimenter potentiellement l'éco-anxiété des enfants ?
Bah oui, parce que là, justement, on se place dans un discours où on va lui donner l'information un peu anxieuse, mais derrière, on ne va pas lui expliquer. Et à partir du moment où on lui explique, l'enfant, il est tout à fait capable de comprendre et de se projeter. Donc, en fait, lui dire, se poser juste 5 minutes et lui dire, tu sais, depuis toujours, je te dis, la planète est en danger. En effet, la planète est en danger parce qu'il y a de la pollution, parce qu'il y a beaucoup de plastique dans les océans, parce que la température augmente petit à petit et que ça menace beaucoup de choses, parce qu'on coupe beaucoup d'arbres, parce qu'on est de plus en plus nombreux sur Terre et qu'on a besoin de se nourrir. Mais il y a des choses qu'on peut mettre en place, qui sont déjà mises en place aujourd'hui et qui portent leurs fruits. Par exemple, en France, on a construit beaucoup de pistes cyclables justement pour pousser les gens à moins prendre leur voiture. On a quand même beaucoup réduit en 20 ans nos émissions de gaz à effet de serre. Le recyclage fait vraiment partie des habitudes des Français. Voilà, il y a plein de choses. Donc, il faut à la fois lui donner cette information que la planète ne va pas bien aujourd'hui, mais qu'il existe quand même des solutions. Donc voilà, moi je pense que quand on leur donne cette information un petit peu anxieuse, derrière, si on leur explique, ils sont tout à fait à même de comprendre et
de pouvoir reprendre ça avec eux.
Pardon, mais c'est parce que je trouve que quand on regarde les informations ou les médias, on nous donne que des informations alarmistes. Des informations comme toi, tu peux nous donner en nous disant « Mais en fait, voilà, la France, elle a fait ça, ça, ça pour l'écologie et ça porte ses fruits. » Bah, finalement, on ne l'entend pas, je trouve. Et les enfants, du coup, ne l'entendent pas non plus. Si les parents ne l'entendent pas, les enfants ne peuvent pas l'entendre. Ça fait du bien. Un petit peu, quoi.
Là, vous soulevez vraiment cette question, Alexia, en effet, des sources d'informations. Est-ce que vous continuez de regarder les informations ?
Ah non, j'ai arrêté, moi. En fait, je choisis comment je m'informe. Parfois, on me dit, mais t'as pas entendu parler ça ? Ah non, en effet. Donc, je me renseigne après, mais j'ai arrêté. C'est trop anxiogène.
Bon, là, c'est un peu le serpent qui se mord la queue, Mélanie.
Oui, malheureusement, on vit dans une société où l'information est instantanée. Parfois courte, justement, on donne des petites informations. Donc en général, en effet, on a des informations qui sont plutôt anxiogènes, qui tournent autour des problèmes et pas des solutions. Alors il y a quand même des médias qui essayent de pointer les solutions et tout ce qui se fait de bien, mais en général, ce n'est pas l'information qu'on a, grand public, spontané, etc.
Alexia nous parlait voilà, de sa fille bon, intègre, qu'elle lui transmet voilà, une conscience écologique, peut-être voilà, certaines inquiétudes ou peurs. En tout cas, c'est votre inquiétude aussi, Alexia. Quel est le lien, Mélanie, pour vous, entre l'éco-anxiété du parent et celle de l'enfant ? Est-ce qu'il y a un lien ? Voilà, est-ce que c'est toujours le cas ? Est-ce que...
Ah bah oui, parce que le parent, quand il va être éco-anxieux, il va forcément avoir un discours comme Alexia l'est. Et elle dit à sa fille, c'est pour la planète ne va pas bien, c'est pour sauver la planète. Le parent éco-anxieux va forcément transmettre de l'anxiété à son enfant. Donc je dirais que quand on souffre d'éco-anxiété en tant que parent, la première chose, c'est d'essayer de sortir, de surmonter cette éco-anxiété, de mettre en place des actions nous-mêmes, de se rassurer, de se déculpabiliser, pour derrière se dire « Voilà, j'ai intégré ça, ça fait partie de ma vie, je mets des actions en place. Maintenant, je suis prêt à en parler avec mes enfants, mes élèves, etc. »
l'éco-anxiété se transmet aux enfants, mais les solutions, en tout cas les actions aussi, se transmettent aux enfants.
Ah oui, tout à fait. Ben, on parlait tout à l'heure de plein de petits gestes qu'on peut mettre en place. Ça, finalement, les enfants, par mimétisme, à partir du moment où on leur montre et qu'on les éduque comme ça, c'est des gestes qui vont être acquis pour leur vie.
Mélanie, pourquoi faut-il éveiller la... Voilà, on en parlait déjà un peu tout à l'heure, mais pourquoi il faut éveiller la conscience écologique de nos enfants? En tout cas, peut-être plus, quel est l'objectif de ça? Voilà, vous parliez tout à l'heure que c'était une étape importante pour ensuite pouvoir passer à l'action. Mais au-delà de passer à l'action, pourquoi c'est important? Quel est l'objectif dans le fait de le faire?
Alors l'objectif, c'est que nos enfants, une fois adultes et une fois décideurs, ils aient déjà toutes les billes en main et qu'ils soient armés pour affronter les décisions qu'ils vont avoir à prendre. Parce que là, on voit que le réchauffement climatique s'accélère, qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup de problématiques environnementales qui ont de plus en plus de poids. Donc il y a une vraie urgence à passer à l'action. Ça fait des dizaines d'années que ces problématiques environnementales existent. Mais aujourd'hui, on se rend compte qu'à l'horizon 2050, il va se passer plein de choses. Et en fait, l'horizon 2050, enfin moi en tout cas, ma fille, elle aura l'âge que j'ai actuellement. Donc si on ne lui en a pas parlé des petites, si ses gestes ne sont pas acquis petites, elle n'aura pas les cartes en main pour, elle, prendre les bonnes décisions. Et puis souvent, on se dit que nos enfants sont trop jeunes, que c'est trop tôt et qu'ils pourront le faire eux en temps voulu. En fait, il faut se dire aussi qu'on est en train de... d'éduquer aussi les décideurs de demain et qu'en 2050, c'est là où il faudra aussi prendre beaucoup, beaucoup de grosses décisions et qu'il faut vraiment que nos enfants soient préparés à ça aussi. En tout cas, quand on en parle tout petit, on peut leur en parler juste pour qu'ils en aient conscience. Il y a déjà plein de choses à faire avec les enfants, oui.
Alors justement, quels sont les outils, Mélanie, que vous proposez pour sensibiliser les plus jeunes en s'amusant? Parce qu'Alexia nous parlait de jeux. Quels sont ces outils que vous avez développés?
Alors déjà, j'ai... Je tiens un blog avec plein d'informations, plein d'activités, de choses comme ça, sur lesquelles je propose aussi un e-book gratuitement, justement, pour se dire, je commence à passer à l'action, je m'informe et je mets en place des activités avec mes enfants. Donc moi, ça me tient à cœur de leur apporter des mots et des explications à leur hauteur, avec des mots simples et des explications très terre à terre aussi, sans les angoisser. Et derrière, de leur proposer des activités pour mieux comprendre, pour manipuler, pour créer, etc., et aussi pour se sentir acteur. Et donc moi derrière, comme disait donc Alexia et vous Mathilde tout à l'heure aussi, moi j'ai créé derrière des kits thématiques et des abonnements. Donc l'abonnement reprend les kits thématiques et je les construis vraiment comme un parcours pédagogique dans lequel les concepts vont être apportés aux enfants peu à peu, dans un ordre assez logique, en tout cas qui me semble logique à moi. Et donc chaque mois, on va étudier, on va explorer une thématique sous forme de jeu, avec des outils. Donc par exemple, on va commencer par le réchauffement climatique, on va poursuivre avec l'eau, la pollution, les animaux. Et donc chaque mois, on va retrouver des outils concrets, des fiches, des vidéos, des expériences scientifiques. On va creuser un petit peu, on va manipuler avec des activités manuelles, des constructions, on va faire des jeux. Et on va finir cette grande exploration du mois avec un grand jeu, donc un super moment à partager, que ce soit en famille ou en classe, sous forme d'une chasse au trésor, d'un escape game, d'une enquête, etc. Donc là, vraiment, on va aussi ancrer les connaissances, mais sans s'en rendre compte, en s'amusant.
Tous ces outils sont à destination à la fois des parents, des familles et des professionnels de la petite enfance. Voilà. Alors là, les écoles, mais les centres de loisirs, voilà. En tout cas, toute personne accompagnant des enfants peut utiliser ces outils.
Tout à fait, c'est ça.
En dehors de vos outils, qu'est-ce que vous recommanderiez pour sensibiliser les plus jeunes?
Alors, un truc tout bête auquel on pense pas forcément comme ça d'instinct, c'est tout simplement d'emmener les enfants en forêt, ou dans la nature, ou dans un parc. Au-delà du bien-être qu'apporte le fait d'être en extérieur, près des arbres, près de la nature, l'enfant, il va observer, il va écouter, il va sentir, il va parfois goûter, toujours sous la surveillance d'un adulte, il va faire fonctionner ses cinq sens. Rien que le fait d'observer une fourmilière, comment ça fonctionne, finalement, cette petite société un peu captivante et finalement très importante pour les sols, pour la vie. L'enfant, en fait, en nature, il va observer, comprendre, manipuler. Et ça, déjà, c'est déjà un très grand pas. Parce que moi, je suis persuadée que quand on apprend à comprendre notre environnement et la nature, derrière, on ne peut que essayer de protéger ce qu'on aime. Donc déjà, pour moi, c'est un grand pas.
Donc apprendre à nos enfants à aimer la nature, à la connaître pour pouvoir ensuite la préserver.
Tout à fait.
Alors là, du coup, quand vous parlez de la nature, aujourd'hui, Moi, par exemple, j'utilise des applications voilà, pour reconnaître les plantes, le son des oiseaux. Donc là, je pense à PlantNet, BirdNet. Est-ce que vous en connaissez d'autres ?
Alors, il y a aussi Six, par exemple. On va photographier des plantes, des choses qu'on va trouver dans la nature et on va construire comme le système des Pokémon, une espèce de Pokédex où il va falloir essayer d'avoir croisé un maximum d'espèces végétales, animales. Donc ça, ça plaît beaucoup aux enfants. Puis après, des applications toutes simples, juste pour donner envie d'aller se balader. Par exemple, il y a des applications de geocaching où il va falloir trouver des petites caches avec parfois des énigmes. Et les enfants, ça les motive à aller se balader et sur le chemin, à observer, à se poser des questions.
Oui, des choses qui sont déjà toutes prêtes, déjà organisées. Il y a juste à télécharger l'application et puis suivre le parcours.
Tout à fait.
Dans les outils pédagogiques, il y a aussi la question des livres. Est-ce que vous avez des livres à recommander ? Alors, j'imagine là aussi en fonction des âges, est-ce qu'il existe voilà, des choses qui sensibilisent les enfants et qui peuvent être des outils aussi assez précieux pour les parents, justement, pour trouver les mots, pour parler tout ça avec leurs enfants ?
Tout à fait. Alors moi, typiquement, quand ma fille est née il y a quelques années, il y avait beaucoup moins de choses qui existaient. Aujourd'hui, on a la chance qu'il y ait de plus en plus de choses qui soient faites dans ce domaine-là. Aujourd'hui, on peut trouver, pour les tout petits, on peut trouver des Tchoupis et des Petits loups protègent la planète. Pour les plus grands, on va trouver des livres d'histoire, mais aussi des livres qui répondent à leurs questions. Par exemple, moi, j'aime beaucoup la collection Mes petites questions. Copains des bois, copains de l'écologie, etc. Ça, c'est pour les un peu plus grands. Et puis après, pour les ados, il y a plein de choses qui sont faites aussi. Il va y avoir des histoires, la fameuse histoire du petit colibri qui fait sa part. C'est vrai qu'on trouve beaucoup de ressources maintenant sous forme de livres aussi.
Alexia nous parlait de jeux de société. Est-ce que vous auriez des jeux de société à nous recommander ?
Alors, il y a une super marque qui s'appelle Bioviva, qui, alors déjà, est française, conçoit ces jeux de façon éco-responsable et sur des thématiques environnementales dans lesquelles, justement, on va aborder le réchauffement climatique, la banquise, la planète, etc.
Et pour les ados, parce que vous nous disiez, voilà, les ados, ils souffrent plus d'éco-anxiété pathologique. Comment eux, peut-être plus spécifiquement, on peut les accompagner sur ces questions ?
Alors, il y a un outil super qui existe, alors pour les adultes, mais qui est aussi transposé chez les ados et même maintenant chez les enfants, c'est la fresque du climat. Mm-hmm. Donc ça, c'est une super expérience. Et en général, il y a justement ils sont déjà avec des jeunes de leur âge, donc ils vont se poser des questions, ils vont débattre. Et il y a toujours un animateur qui est formé à ces questions-là et qui va pouvoir répondre à leurs questions aussi et les rassurer. Et au-delà de constater, de faire un constat global de ce qui se passe sur la planète, va leur dire il y a des solutions qui existent à tel et tel niveau.
Vous avez déjà fait cet atelier de la fraise du climat, Alexia ?
Non, jamais. J'ai fait d'autres choses. Dans ma classe, j'ai fait des escape games sur le thème de l'écologie qui fonctionne très bien, mais la fresque, non, je ne connaissais même pas.
Alors moi, je l'ai fait, une fresque du climat. En tout cas, j'ai trouvé que c'était vraiment très intéressant pour justement aider à cette prise de conscience. Voilà, comment comprendre comment tout s'imbrique voilà, à partir des activités humaines. Bah, voilà, qu'est-ce qui se passe ? Quels sont les impacts à différents niveaux ?
C'est ça, on va avoir une prise de conscience justement plus systémique, comme on en parlait tout à l'heure. Après, justement, il faut, lors de cette fresque du climat, c'est important aussi de poser des questions parce qu'on va se rendre compte de la situation de la planète. C'est important de sortir de ça aussi et de pas justement de créer des co-anxiétés, de se dire « Ok, d'accord, j'ai compris. Maintenant, qu'est-ce qu'on met en place pour contrer tout ça ?»
Est-ce qu'il y a d'autres choses pour les adolescents que vous auriez envie de recommander ?
Après, il y a plein de livres qui sont très bien faits avec des idées d'action à mener. Donc, par exemple, il y en a un qui s'appelle « 60 façons de réduire son empreinte plastique ». On va expliquer. Dedans, ils expliquent les différentes sortes de plastique, le pourquoi du comment, et puis comment, derrière, quel geste mettre en place, quel impact, etc. Et il y a un autre livre qui est très chouette, que j'aime beaucoup, qui s'appelle « Assez grand pour aider la planète ». Dans ce livre, en fait, on va voir qu'il y a 12 jeunes, ça raconte l'histoire de 12 jeunes, qui ont mis des actions en place, qui portent leurs fruits, pour aider justement la planète. Et justement, les jeunes, ils vont se dire, finalement, je ne suis pas trop jeune pour faire quelque chose et avoir un impact.
Face aux enjeux écologiques, climatiques, vous nous dites bien, là, Mélanie, qu'il est absolument essentiel d'informer et d'outiller les enfants qui seront les adultes de demain pour les aider à relever les défis qui les attendent. L'éco-anxiété est quand même bien souvent un passage. Est-ce que voilà, peut-être ça serait une question qui reste peut-être en suspens, un passage nécessaire pour ensuite aller vers plus de conscience, pour pouvoir être par la suite dans l'action. Je recommande souvent des lectures à mes patients, des lectures ou autres.
Alors, il y a des très chouettes documentaires, justement, qui permettent d'avoir cette prise de conscience. Par exemple, le documentaire Notre planète. Là, ce documentaire-là, il va permettre de prendre conscience de la beauté de notre planète. C'est des superbes images. Et aussi les conséquences du réchauffement climatique sur notre environnement. Donc ça, Notre planète, le documentaire est super. Il y a aussi Demain. Demain, c'est un documentaire qui montre des initiatives d'hommes et de femmes à travers le monde qui portent leurs fruits, qui ont un vrai impact. Et ça, justement, ça fait du bien. Ça permet pour moi de surmonter cette éco-anxiété. Ok, d'accord, il y a un constat, mais il y a plein de choses qui se mettent en place. Et finalement, c'est des hommes et des femmes comme vous et moi qui portent ces projets-là aussi. Et ça, ça peut être regardé aussi en famille. Alors, pas avec des enfants trop petits, mais 8, 9, 10 ans. Et puis après, d'autres idées. Alors, pour les ados, j'avais dit le super livre assez grand pour aider la planète. Pour les enfants de plus de 6 ans, il y a un livre que j'aime beaucoup qui s'appelle « Mes histoires pour sauver la planète ». Et pour les tout petits, il y en a un top aussi qui s'appelle « Le doudou du roi Léonard ». C'est un roi qui a tout et qui peut... finalement jeter, racheter, jeter, remplacer, etc. Mais un jour, il va perdre quelque chose qui ne peut pas être remplacé facilement, c'est son doudou. Et ça, les enfants, ça leur permet de se projeter aussi sur justement ces biens matériels.
Un très grand merci, Mélanie, pour tous ces conseils et toutes ces ressources pour dépasser l'éco-anxiété et puis accompagner nos enfants sur toutes ces questions-là. Un très grand merci, Alexia, d'être venue partager avec nous votre éco-anxiété et puis ce que vous essayez de mettre en place. Donc, Mélanie Courrière, je rappelle que vous êtes la créatrice du blog « Faire découvrir l'écologie aux enfants ». On peut retrouver toutes vos informations sur votre site internet. Pour ceux qui nous écoutent, je vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur Facebook, Instagram et nous écrire à l'adresse suivante podcastparentalité@gmail.com. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker et à noter et on se retrouve dans un prochain épisode.
Hey marketers, advertisers, and business owners. Find yourself chatting up the same audience in the same places, using the same old lines? Maybe it's time to podcast the net further to catch your next customer. With Acast, there's plenty of fish in the sea with more than 100,000 podcasts and millions of listeners. So there's a perfect match for every business. Use our ad platform to cast your net, then narrow down using targeting such as demographic, show categories, audience segments, and more. Find your match, then reel them in. Advertise on more than 100,000 podcasts with Acast. Head to go.acast.com/closer to get started.